Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleurs. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Bien intégré au sein du groupe des novateurs, notre peintre, qui non seulement expose, participe aussi à l'organisation matérielle des manifestations. En homme généreux, il soutient aussi ses amis dans la misère. Prenons notre palette et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Gustave Caillebotte. Peu de temps après la clôture de la troisième exposition des impressionnistes de 1977, Gustave Caillebotte organise le 28 mai la seconde vente aux enchères à l'hôtel Drouot de ses œuvres et celles de Pissarro, Renoir, Sisley. Les raboteurs de parquet sont achetés 655 francs, prix le plus fort de la vente. Les peintres en bâtiment partent pour 301 francs. C'est un échec total pour les artistes. Caillebotte n'hésite pas à faire grimper les enchères pour aider ses camarades. De son côté, cette même année, Edgar Degas demande à l'américaine Marie Cassatt, installée en France, de se joindre à leur groupe. Sous l'influence de Degas, dont il est proche sur la manière de peindre, Caillebotte va s'initier au pastel. De 1873 à 80, il réalise plus de 20 pastels. En 77, il en exécute 10 à Hyères, dont La sieste, Mur du jardin potager, Prairie à Hyères, Portrait d'enfant. Il a souvent recours aux nuances bleues, fréquemment critiquées par ses détracteurs. Jeune garçon au pied d'un arbre, collection privée, représente un garçonnet de profil, coupé aux hanches, habillé d'une blouse bleue et coiffé d'un canotier.
Les débits de boissons.
Lieu de rencontre, de discussion animée, le café a été un sujet de prédilection pour de nombreux peintres, tels Manet, Degas, Caillebotte aussi, avec sa toile dans un café. Les artistes s'y retrouvent, mais aussi les bourgeois côtoyant les ouvriers, que ce soit au café Gerbois ou de Clichy, ou au café Riche, rue Lafitte. Ici, les impressionnistes, journalistes, critiques, écrivains, collectionneurs s'y réunissent un jeudi par mois. On y parle art, bien sûr, cotation, des dernières tendances avec Renoir, Sisley, Pissarro, Cézanne, Degas, Charpentier l'éditeur, Georges de Béliot le médecin roumain, Stéphane Mallarmé le poète. Monet demande ainsi à Caillebotte.
« Puis-je venir vous demander à déjeuner jeudi 3 avril ? Nous reviendrons ensemble pour le dîner au Café Riche, car j'espère bien qu'il aura lieu. »
La Nouvelle Athènes, au nord de la gare Saint-Lazare, est aussi un autre lieu de rendez-vous des artistes peintres. Situé à l'angle de la rue Pigalle et Frochot, c'est un café et restaurant où se rencontrent aussi les critiques, défenseurs des impressionnistes, tels Paul Alexis, Philippe Burti, Edmond Duranty, sans oublier Émile Zola.
Un thème cher à Caillebotte, l'eau.
Entre 77 et 78, Gustave peint bon nombre de scènes d'eau, une dizaine, dont Périssoire sur Lierre, musée d'art de Milwaukee, Périssoire, musée des beaux-arts de Rennes. Des hommes en chapeau, de dos ou de face, les pagaies à la main, rament sur de longues embarcations effilées à fond plat, appelées skiffs, dans Bateau tirant sur son amarre, musée des beaux-arts de Virginie Richmond. Canotier au chapeau haut de forme, collection privée, nous montre un homme coiffé de son chapeau, ne papillon sur une chemise à rayures bleues, sous un gilet noir, ramant le regard ailleurs. Un citadin fortuné, venu prendre, sans doute, l'air pur pour quelques heures, s'échappant ainsi des turbulences de la ville. La barque, coupée en deux, possède du style japonisant. Cette technique est d'ailleurs reprise dans Canotier ramant sur Lierre. Les deux rameurs, au visage caché par leur chapeau de paille, déploient un effort physique soutenu, nous entraînant avec eux, indiscutablement. Une impression de solitude, où toute joie est exclue, s'en dégage. Caillebotte s'attache aussi à nous montrer des pêcheurs et des baigneurs, tels canotiers pêchant sur Lierre, pêcheurs au bord de Lierre, pêcheurs ou pêche à la ligne, de facture plus impressionniste, dépeint sa cousine Zoé, une gaule à la main, à côté d'un pêcheur assis sur une chaise. baigneur au bord de l'Yerre, est un tableau à la touche très impressionniste aussi, où la lumière se fraye un chemin à travers le feuillage. Dans baigneur s'apprêtant à plonger, la composition est asymétrique. En effet, la rivière vient buter contre le plongeoir sur le cadre inférieur du tableau. Chez Caillebotte, l'eau de la rivière a une fâcheuse tendance à rester opaque. Nous sommes bien loin des eaux miroitantes de Monet. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après le succès de l'exposition de 77, l'année 78 semble marquée par des divergences au sein du groupe. De ce fait, aucune manifestation ne va avoir lieu. D'autant plus que se prépare l'exposition universelle attendue du grand public. En janvier, Gustave aide une fois de plus Claude Monet qui est obligé de quitter Argenteuil, criblé de dettes, laissant en gage son célèbre déjeuner sur l'herbe. Caillebotte continue de peindre ses scènes nautiques sur l'Yerre. Il n'a pas oublié d'immortaliser les années précédentes, le parc de la propriété. Cet espace, déjà entreperçu dans un tableau inachevé datant de 75-76, le billard, est un thème tout désigné pour l'artiste. Il nous le retranscrit dans le parc de la propriété Caillebotte, les jardiniers, le mur du potager à Yerre, le jardin potager à Yerre. Toutes ces toiles appartiennent à des collections privées. Mai 78 voit la parution de la brochure « Les peintres impressionnistes » du critique d'art politicien Théodore Duré. Il y parle de Monet, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley. Mais Manet et Degas en sont exclus, ce qui exacerbe les divergences entre artistes une fois de plus. Fervent défenseur des impressionnistes, il proclame
« Il faut que le public qui rit si fort en regardant les impressionnistes s'étonne encore davantage. Cette peinture s'achète !»
En juin 78, Ernest Ochédé, collectionneur, est acculé à la faillite. Ruiné, sa collection de tableaux est alors mise en vente à l'hôtel Drouot. Elle est composée de 5 Manet, 9 Pissarro, 12 Monet, 13 Sisley, 9 Renoir. Malheureusement, les tableaux partent à bas prix. 60 francs un Monet, 31 francs un Renoir. C'est un véritable fiasco. Le docteur de Béliot achète le célèbre tableau de Claude Monet, Impression soleil levant, qui donna son nom au mouvement impressionniste. Caillebotte en profite aussi pour acheter des œuvres. Cette année-là, il compose Les Orangers, musée des Beaux-Arts d'Houston, qui n'est pas sans rappeler Portrait à la campagne. C'est une œuvre de grand format, 1,57 m sur 1,17 m. Nous reconnaissons les orangers dans leurs immenses pots blancs, à l'ombre desquels son frère Martial et sa cousine Zoé lisent par une journée ensoleillée. Le chien est allongé au soleil sur le chemin. Il réalise aussi une vue urbaine d'une rue de Paris, rue à Lévis, vue d'un 6e étage, collection privée. C'est la première d'une longue série, prise depuis une fenêtre ou d'un balcon. La perspective ainsi modifiée peut déconcerter au premier abord. Le regard plonge depuis une chambre de bonne sous les toits, au numéro 1 de la rue Lafayette, faisant angle avec la rue de la Chaussée-d'Antin, sur la rue d'Alévis, par un coucher de soleil. Un pan de la fenêtre masque le côté gauche du tableau, brossé dans les nuances bleu-violettes. Les immeubles sont à peine esquissés, de même que les silhouettes des passants et les calèches.
Pouvez-vous nous définir le japonisme dont Caillebotte s'est inspiré?
Bien sûr. Les cadrages particuliers, décentrés, les vues plongeantes, les points de fuite multiples ou absents, chers à Caillebotte, témoignent de l'influence de l'art japonais. Les estampes japonaises s'importent vers 1854-60 en Europe. Manet, Degas y puiseront leur inspiration, de même que Pissarro et Monet, qui possèdent toute une collection à Giverny. Hokusai, Hiroshige, leurs modèles et maîtres occupent l'espace différemment. La perspective n'est plus centrée, linéaire. La ligne d'horizon est déplacée ou absente. Les vues angulaires, les aplats de couleurs claires, les points de vue rapprochés témoignent de cette nouvelle construction du tableau. Le Japon a su s'ouvrir à la culture américaine, européenne, en exportant des marchandises locales et en étant présent aux expositions universelles à partir des années 60. Des boutiques asiatiques, des cafés, comme le divan japonais, s'implantent à Paris. Cette influence sera aussi ressentie chez Vincent Van Gogh et Gauguin vers 1890. Revenons maintenant à notre troisième exposition de 77 et allons découvrir les trois compositions urbaines exposées.
Du côté du musée.
Avec le pont de l'Europe, musée du Petit Palais à Genève, 1,25 m sur 1,80 m, Caillebotte nous montre un des plus prestigieux ouvrages d'art haussmannien de Paris, terminé en 1868. Ce pont métallique à six branches enjambe les voies ferrées de la gare Saint-Lazare, rejoignant les deux quartiers de l'Europe. Il est d'ailleurs présent dans quelques toiles des gares Saint-Lazare de Monet. Avec Gustave, nous le traversons comme ce couple de bourgeois, où un ouvrier en blouse bleue est adossé. Gustave s'est lui-même représenté, en chapeau haut de forme, en compagnie d'une de ses amies. L'imposant treillis métallique gris bleuté occupe une place prépondérante sur la droite du tableau, en une perspective oblique nous menant vers un point de fuite excentré sur la gauche, devant les immeubles cossus. Les différentes couches sociales se croisent et s'ignorent sur le trottoir de ce pont. Ce tableau a été préparé minutieusement, comme en témoignent les nombreuses études préliminaires. Gustave a fait fabriquer un omnibus vitré afin de pouvoir travailler par tout temps. Une esquisse est au musée des Beaux-Arts de Rennes. Une autre version existe, le pont de l'Europe, variante, 1,05 m sur 1,31 m, au Kimball Art Museum, Fort Worth, Texas. Le treillis du parapet est peint de face en gris bleuté, sur lequel bute le regard. Trois hommes y sont représentés de dos, dont deux regardent vers la gare Saint-Lazare. Dans « Les peintres en bâtiment », collection particulière, Caillebotte décrit à nouveau le monde ouvrier et l'activité de la rue. La chaussée rectiligne en perspective est décalée sur la gauche, bordant les immeubles, tandis que la partie droite du tableau est occupée par les trois artisans et leurs deux échelles en bois, dressées devant la devanture d'un restaurant. Le tableau est exécuté dans des tons grisâtres, ternes par un ciel couvert, comme si ce travail n'était pas source d'enthousiasme. Gustave Rivière déclare à ce propos.
Le tableau des peintres en bâtiment a un côté satirique assez amusant. Ces ouvriers qui bourrent consciencieusement une pipe en contemplant le travail à faire ne manquent pas d'observation.
Là aussi, de multiples études au crayon ont été réalisées, aujourd'hui, dans des collections privées. La troisième vue urbaine s'intitule « Rue de Paris, temps de pluie, Institut de l'art de Chicago ». De dimension imposante, 2,12 m sur 2,76 m, cette scène de vie contemporaine, grandeur nature, se situe au croisement des rues pavées de Saint-Pétersbourg, de Moscou, de Turin, à côté de la place de Clichy. Des citadins distingués y déambulent en tous sens, un parapluie à la main. La pluie est retranscrite par l'aspect brillant des pavés, trottoirs et des parapluies. Les nuances bleutées, ocre grisées, traduisent cette atmosphère humide, diffuse. Caillebotte nous surprend par une composition audacieuse du tableau. Un lampadaire, placé au milieu, scinde la toile en deux, point de départ des multiples points de fuite symbolisant les rues de ce carrefour. Dans le sémaphore de Marseille, Zola rend hommage au peintre.
Du plus beau courage et qui ne recule pas devant les sujets modernes, grandeur nature.
D'autres critiques, comme Duranty, reprochent au tableau son manque d'émotion.
Cela donne l'idée de ce que sera la photographie quand on aura trouvé le moyen de reproduire les couleurs avec leur intensité et leur finesse.
Roger Ballu, quant à lui, déclare
« Monsieur Caillebotte considère la composition comme affaire indigne de lui. Ses personnages sont coupés au hasard. Le cadre coupe en deux, de la tête aux pieds, une figure d'homme vue de dos. »
Georges Rivière, en réponse aux attaques, rétorque
« Ceux qui ont critiqué ce tableau n'ont pas songé combien il était difficile et quelle science était nécessaire pour mener à bien une toile de cette dimension. »
Une esquisse de ce tableau que Caillebotte avait offerte à Monet se trouve au musée Marmottan de Paris. Notre voyage en terre de couleurs se termine pour aujourd'hui sur des œuvres majeures de Caillebotte. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette même antenne pour d'autres découvertes et expositions.